Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Bonsoir à vous tous qui avez choisi VOA Afrique, mettant depuis Washington DC. Bienvenue dans l'Amérique, vous. Au micro, vous êtes en compagnie d'Eric Manilakidza. Ce soir, nous parlons de l'agression contre l'écrivain Salman Rushdie et de la tolérance de la pensée ou des idées. Lionel Lunanilagahima assure la mise en onde. L'écrivain des versets sataniques, menacé de mort depuis 1989 par une fatwa de l'Iran, a été poignardé vendredi matin au moins 10 fois par un Américain d'origine libanaise sur la scène d'un amphithéâtre du centre culturel de la ville tranquille de Chautauqua, dans le nord de l'état de New York, ici aux États-Unis. Salman Rushdie, né en 1947 en Inde, dans une famille d'intellectuels musulmans non pratiquants, avait embrasé une partie du monde islamique avec la publication en 1988 des versets sataniques, jugés par les musulmans les plus rigoristes comme blasphématoire à l'égard du Coran et du prophète Mahomet. Cette agression contre Salman Rushdie a choqué en Occident, mais a été saluée par des extrémistes musulmans. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. L'historien Mohamed Mbodj, professeur à Manhattanville College à New York, est avec nous. Bonsoir, professeur Mbodj.
Bonsoir.
En Pennsylvanie, le professeur Jean-Claude Jéréquet, il est docteur en histoire contemporaine et en sociologie des religions. Professeur Jean-Claude, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Benoît Eliawazi Mbambi Kungua, président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas, basé à Ottawa au Canada, auteur de nombreux ouvrages dont Panorama de la théologie négro-africaine contemporaine. Professeur Awazi, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Salman Rushdie devait intervenir dans une conférence et l'animateur de cette conférence a raconté sur CNN que l'attaque ressemblait à une sorte de mauvaise blague qui n'avait pas l'air réelle. Quand il y a eu du sang derrière lui, c'est devenu réel. Professeur Jéréquet, votre commentaire sur cette agression?
Je dirais que cette agression est une négation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée à Paris le 10 décembre 1948. Et l'article 19 de cette déclaration stipule que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je pense que les gens qui agressent au nom de Dieu, qui pensent que Dieu est bafoué et donc qu'ils ont le droit, n'est-ce pas, de le défendre, je crois qu'ils se trompent. Ils ne connaissent pas Dieu, ce sont des ignorants. Parce que Dieu n'a pas besoin d'être défendu. J'ai envie même de dire que Dieu est assez grand pour se défendre lui-même. Et comme disait Cheikh Hamid Okan dans l'aventure ambiguë, Dieu n'est pas notre parent. Dieu n'est pas notre parent, on a le droit de l'aimer ou de le bafouer. Et il ajoute, la liberté d'aimer ou de haïr Dieu est l'ultime don de Dieu que nul ne peut enlever à l'homme. Vous voyez, c'est beau ça. Et pourtant, Amidou Khan, il est musulman pratiquant, vous voyez. Mais il dit que Dieu n'est pas notre parent et nul n'a le droit, n'est-ce pas, de le défendre. Encore moins le droit de tuer au nom de Dieu. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que Dieu, quand on regarde très bien, au moins pour le christianisme, Dieu n'est pas le Dieu des armées, mais plutôt le Dieu des armées, c'est-à-dire celui dont la puissance se manifeste dans la vulnérabilité, dans la faiblesse. C'est un Dieu, n'est-ce pas, qui s'expose plutôt à la violence des hommes. C'est un Dieu non violent. Donc, je pense que ceux qui tuent au nom de Dieu, en fait, ils ne connaissent pas qui est Dieu. Voilà, donc je le répète, c'est un Dieu, non pas des armées, en deux mots, mais un Dieu des armées.
Dieu que nous aimons et tolérons. Professeur Awazi, votre commentaire sur cette agression?
Ok, merci pour la parole. D'abord, j'entérine, je suis d'accord avec professeur Jean-Claude Jéréquet. Là, vraiment, il a donné vraiment la théologie chrétienne, hein, c'est-à-dire tout le mouvement de la révélation de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Nous passons d'un Dieu militaire, désarmé, en deux mots, vers un Dieu, comme il a dit, désarmé, crucifié. Et pas seulement crucifié, humilié. Hein, c'est quand même celui que nous appelons Dieu dans le christianisme, Jésus-Christ, sa parole incarnée. Il finit quand même sur la croix, crucifié, pendu. Pendu, c'est ça le mot. Donc c'est la violence extrême qu'il encaisse. Merci Jean-Claude. Alors moi je ferai trois remarques rapides pour cette première prise de parole. La première remarque, d'abord toutes ces remarques sont guidées par une sorte de phénoménologie sociale, c'est-à-dire, première remarque, nous vivons, comme aux États-Unis par exemple, dans des sociétés où il y a un espace public, hein, dans les démocraties non libérales, où les gens, les individus, les citoyens doivent s'exprimer. Mais en même temps, à côté de cet espace public laïque, athée, sans Dieu, il y a aussi la réalité sociologique d'une texture multiculturelle, multiethnique, multiraciale de ces démocraties. Ça, c'est la première remarque. Une sorte d'antinomie, de tension entre la vision laïque des démocraties occidentales, néolibérales, et la structure multiethnique, multiculturelle, multiraciale des démocraties. Première remarque. Deuxième remarque, toujours sous forme d'antinomie, d'opposition. Bon, il faut aussi, tout à fait, comme disait Jean-Claude, il y a cette nécessité dans cet espace communicationnel, comme dit Habermas, il y a la liberté de pensée et de parole et d'écriture dans les démocraties occidentales. C'est inscrit noir sur blanc dans leur constitution. Mais en même temps, c'est ça la deuxième remarque, l'autre côté de l'opposition, il y a la présence des minorités racisées, culturelles et religieuses qui vivent au Canada, aux États-Unis, à Londres, où a eu lieu l'apparition de l'ouvrage controversé. Et la troisième remarque, toujours sous forme d'antinomie, nous vivons dans les démocraties néolibérales qui perçoivent les individus comme des atomes qui sont soumis aux lois du marché, d'abord de l'État, du marché, et qui sont engagés dans une compétition sociale, voilà, à mort, donc voilà, éternelle, perpétuelle. Hein? Mais en même temps, toujours dans la troisième remarque, l'autre côté de l'antinomie, de l'opposition, les religions, voilà, c'est l'objet de l'émission, les religions, alors il n'y a pas que le christianisme. Il y a l'islam, le judaïsme, tout ça, l'hindouisme, et les religions prétendent donner un sens global, ultime à la vie humaine, c'est-à-dire une relation au Dieu vivant, créateur et juge absolu. Alors ces croyants, c'est ça la fin de cette troisième antinomie. Alors il y a d'une part les démocraties qui perçoivent les individus comme les atomes, et d'autre part les religions qui donnent la valeur d'action et de pensée. Exemple, dans l'islam, ce dont il est question aujourd'hui, les versets sataniques de Salman Rushdie, publiés en 1988, je passe les détails, disaient que bon, c'est comme un roman. C'est un roman où le prophète Mohammed aurait été induit en erreur par un esprit satanique pour prêcher le polythéisme. Le polythéisme. Or, l'islam, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu et Allah et Mohammed son prophète. Donc, cette intervention s'est montrée que nous devons tenir compte, d'une part, d'une vision des démocraties occidentales où il y a la liberté d'expression dans l'espace communicationnel, mais en même temps, c'est tout ici en Occident, Canada, États-Unis, Londres, à cause du retour de la colonisation, il y a des communautés, des minorités religieuses, culturelles, ethniques qui vivent. Donc voilà un peu ce que je voulais dire dans cette première prise de parole.
Professeur Mbodge, votre réaction ?
Voilà, donc certainement ce monsieur qui était à côté de Rushdie, faisait aussi référence au cadre, parce que Chautauqua se trouve dans une partie cossue donc de l'État de New York, en fait l'une des counties les plus riches même des États-Unis, j'en sais quelque chose, parce que c'est là où se trouve mon université, et donc effectivement, lorsqu'on voit ce qui se passe autour, le cadre, c'est un peu plus choquant que peut-être si cela était arrivé dans une grande ville où il y a le chaos, le bruit, le tumulte, etc. Mais pour revenir à l'événement et à ce que mes collègues ont dit, je voudrais quand même rappeler des choses. Certes, nous sommes dans des républiques laïques, ou en tout cas qui se disent laïques, et parce qu'on assiste à un retour de la religion, et peut-être la religion n'est jamais parti. Dans ce pays-ci où ce drame s'est déroulé, il y a toujours cette discussion sur la place de la religion dans l'influence politique. Et je me souviens parfaitement que le vice-président de Trump, Pence, lorsqu'il avait été interviewé comme candidat, se disait d'abord chrétien, ensuite américain et après républicain. Donc, si un homme de cette carrure et à cette position se présente déjà comme le candidat de la chrétienté, on peut imaginer
quelle est la limite ou en tout cas, quelle discussion on peut avoir autour du principe de la laïcité et bien entendu autour des limites qui seraient à l'heure imposées quant à la critique de la religion. Et la deuxième chose, c'est que nous avons une lecture de la religion maintenant à partir du siècle des Lumières, les Hobbes, les Rousseau, etc., et Spinoza avant, donc qui nous donne un peu une idée de relativiser et même de présenter la religion comme faisant partie du trousseau d'outils dont les humains, les hommes disposent et qu'ils peuvent choisir ou ne pas choisir en fonction de son utilité pour la tâche du moment. Mais dans l'histoire de toutes les religions, et ici en particulier, puisqu'on a parlé un tout petit peu de la théologie et de Dieu qui est désarmé, ce Dieu a été désarmé très récemment, peut-être dans les trois derniers siècles, mais une grande partie de l'histoire de la chrétienté, à partir de la conversion à la chrétienté de Constantine, a été une présence divine armée. Et ce n'est qu'au siècle des Lumières que Dieu a été désarmé en Occident. Donc il y a là aussi un aspect historique à voir. Et peut-être que dans ce cas-ci, ce monsieur qui a assailli et a failli tuer Salman Rushdie fonctionne un peu dans ce mode d'un Dieu armé. Ou bien alors même se donne un peu ce rôle comme dans l'aventure ambiguë qu'a cité un de nos collègues. Et on se souvient qu'il y a un personnage qui va mettre fin, disons, au roman, qui va mettre fin donc à la vie du héros en le tuant et qu'on appelle le fou. Donc il y a bien dans cet événement, dans cette histoire, le fou de Dieu. Le fou de Dieu n'est jamais disparu. On peut le calmer, on peut le mettre au rebut, on peut l'ignorer, mais quelquefois il fait intrusion et ici on peut peut-être imaginer qu'on a eu l'intrusion d'un fou de Dieu.
L'attentat a provoqué une onde de choc, particulièrement en Occident. Le président américain Joe Biden a rendu hommage à M. Rushdie pour son refus d'être intimidé et réduit au silence. Pour le président français Emmanuel Macron, son combat est le nôtre, universel. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'était déclaré horrifié. Le chef du gouvernement israélien a dénoncé le résultat de décennies d'incitation au meurtre par le régime iranien. C'est plus qu'une guerre des religions, mais des idées. Voudriez-vous nous parler de l'homme et de ses idées? Pourquoi Salman Rushdie s'est exposé à la colère et à la rage des gens? Est-ce qu'il a insulté les principes sacrés de l'islam, professeur Jereke?
Pour ce que je sais, c'est que c'est un roman, donc religieux, c'est un roman de versets sataniques. Et donc le roman permet, à un auteur d'imaginer toutes sortes de choses. Et je sais que pour le christianisme, par exemple, un auteur, un cinéaste comme Martin Scorsese, avait imaginé un Jésus marié, Jésus ayant une femme, ayant des enfants. Et malheureusement, ça a déclenché la colère de certains catholiques, il faut le dire. Et là, je ne parle pas de croisade, hein. De croisade que Jean-Paul II a regretté, n'est-ce pas, à la veille du jubilé de l'an 2000. C'est des choses du XXe siècle. On a vu donc en Europe des gens marcher contre le film de Martin Scorsese, parce qu'ils avaient été choqués. Bon, donc je pense qu'il faut que tous les croyants, hein, qu'ils soient musulmans, bouddhistes, chrétiens, il faut qu'ils le sachent. Un artiste, un romancier, je veux dire que l'art lui permet donc d'imaginer. Et ce qu'il dit, ce n'est pas forcément des faits, ce n'est pas forcément des choses, n'est-ce pas, dont il a fait témoin. Il faut que les gens le sachent pour ne pas tomber dans le fanatisme, dans l'intolérance, hein, pour ne pas chercher, n'est-ce pas, à agresser le cinéaste ou bien le romancier. Voilà, donc ça c'est une chose. Deuxièmement, et là je veux rebondir sur ce que le professeur Benoît Awasi disait tout à l'heure. C'est vrai, la liberté d'expression, d'opinion existe dans la démocratie libérale. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais en même temps, il faut que, justement, ceux qui écrivent, ceux qui font des caricatures, il faut qu'ils sachent que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Vous voyez? Donc, la liberté, ce n'est pas le libertinage. Hein? La liberté, ce n'est pas la liberté de, n'est-ce pas, de moquer, hein, de se gausser. Bon, les gens peuvent respecter, hein, se moquer de quelque chose qui est important pour les gens. Ouais. Donc il faut aussi que dans ces démocraties occidentales, il faut qu'on le comprenne très bien. La liberté ne nous donne pas le droit d'écrire n'importe quoi, voilà, de dire n'importe quoi. Je crois qu'il faut faire attention parce que nous vivons ensemble. Hein, et on vit ensemble, athées et croyants, on vit ensemble. Et je crois que si nous voulons justement une cohésion, n'est-ce pas, pacifique, il faut tenir compte de ça, tenir compte du fait que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Mais, hein, cela dit, je crois qu'on peut ne pas être d'accord avec certaines caricatures, n'est-ce pas, de l'islam, du prophète, mais ça ne nous donne pas, encore une fois, ça ne nous donne pas le droit de tuer, n'est-ce pas, ceux qui font ça. Parce que, je le rappelle, citant, n'est-ce pas, Hamidou Khan, Dieu n'est pas le parent de l'homme. Et Dieu n'a pas besoin d'être défendu par l'homme. Dieu est assez grand pour se défendre lui-même.
Professeur Mbodge, le fondateur de la République islamique a émis en 1989 une fatwa appelant au meurtre de Salman Rushdie. Et depuis lors, il a vécu des années sous protection policière. Pourquoi cette intolérance?
Tout d'abord, il faudrait remettre ça dans le contexte. 10 ans après la révolution iranienne, il y avait des problèmes, disons, de cohésion interne. En même temps aussi, il y avait une nécessité pour le régime iranien de projeter son succès intérieur, disons, vers les communautés musulmanes à l'extérieur. Et donc, Khamenei avait effectivement fait cette fatwa en déclarant Rushdie comme ennemi de l'islam, etc., etc., etc. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que, tout d'abord, en droit musulman, les fatwas ne sont pas des édits des États. Les États n'émettent pas de fatwas. Ce sont des personnes qui émettent des fatwas. Évidemment, Khamenei étant le chef suprême de l'Iran, on peut assimiler ça à une fatwa émise par l'État iranien. Mais par la suite, l'État iranien, disons régulier, a retiré son support à cette fatwa. Donc, en quelque sorte, en disant que non, ce n'est pas l'État iranien qui a déclaré cette fatwa, c'est Khomeini qui, en tant que théologien, etc., qui a émis cela, et donc cela n'engage que lui. Donc, de ce point de vue-là, il y a discussion à avoir, disons, sur la connaissance du droit musulman, pour savoir qui a droit à une fatwa et qui n'y a pas droit. Et les États n'ont pas de droit à la fatwa. Ce sont des autorités religieuses, et donc l'État peut se dissocier d'une fatwa, et donc cette fatwa devient, disons, inopérable, parce que le bras armé de l'État n'est pas offert pour assurer cette fatwa. Et c'est là où, justement, on entre dans cette nébuleuse du fou de Dieu, ou quelqu'un, en disant que ce monsieur qui a émis cette fatwa parle au nom de Dieu, moi, le fou de Dieu, je vais accomplir cette fatwa au nom de Dieu à travers cet individu qui est mon maître à penser, etc., etc. Donc, lorsqu'on remet ça dans ce contexte, les attaques sur l'État iranien actuellement sont plus des opportunités. D'ailleurs, on voit bien que c'est Israël qui insiste plus fondamentalement et plus particulièrement sur la culpabilité de l'État iranien, plus qu'aucune autre entité. Et ça va de soi, on est dans une ambiance électoraliste israélienne, et donc l'Iran, c'est un peu le boogeyman, et essayer de charger ce régime de bonne guerre. Mais lorsqu'on regarde autour de soi et qu'on consulte les réactions des gouvernements partout ailleurs, le gouvernement iranien n'est pas indexé du tout dans ce cadre-là.
Professeur Awazi, l'Iran a nié toute implication dans l'attaque contre Salman Rushdie, mais a fait porter la responsabilité à l'auteur des versets sataniques.
Ok, merci. Dans la même ligne, c'est ça, comme j'ai dit, il y a une tension. Alors la tension, il faut la situer à deux niveaux. Au niveau global, international, parce que le fatwa a été prononcé par l'ayatollah Khomeini, qui est quand même le guide suprême de la révolution. Donc dans ce niveau global, dans les États islamiques, il n'y a pas une scission, il n'y a pas vraiment un espace libre, laïque, où la religion n'est pas normative. Voilà ma première réaction au niveau global. Vous voyez, donc il y a là, c'est la première chose, mais en même temps, l'auteur, quand l'Iran responsabilise l'auteur, je pense que ça s'explique bien au niveau de leur vision, de leur religion. C'est-à-dire, hein, comme on a déjà dit, les versets sataniques prétendaient, c'est un roman, c'est une création fictive, c'est une fiction, mais une fiction qui peut susciter, qui peut aller titiller la fibre sensible des croyants de cette religion. Parce qu'il est question vraiment qu'il fut un temps où le prophète serait tenté par une vision polythéiste hein, de la foi, et après il se ravisait. Alors, vous voyez que la fatwa a été prononcée en 89, et 34 ans après, elle est toujours en cours. Et même l'assaillant Adi Matar, j'ai lu quelque part dans un journal, il était très surpris que Salman Rushdie ait survécu à son attaque. Vous voyez ? Donc vous voyez que vraiment il a été touché dans ses fibres. Et même lui-même, il avoue qu'il n'a lu que deux pages de l'ouvrage des versets sataniques. Par là, je voulais dire que à la fois dans les États, dans les théocraties islamiques, il n'y a pas de scission, il n'y a pas d'espace libre, laïque, où la religion n'est pas normative, d'une part. Mais d'autre part, dans les États où nous vivons, comme aux États-Unis, vous êtes au Canada et en Angleterre, comme vous savez, c'est les démocraties non libérales qui respectent un espace public d'agir communicationnel, comme dit Habermas, un espace public où les individus sont engagés dans une guerre démocratique légitime pour l'énonciation de la société, pour la création de la société, l'institution sociale. Mais en même temps, c'est ce que j'ai dit dans ma première prise de parole, les individus qui sont à New York, à Washington et à Londres, ces individus, contrairement à la vision qui les considère comme la vision laïque, non libérale, qui les considère comme des atomes, ces individus sont chargés des valeurs, des croyances. Donc c'est comme il y a un processus d'incorporation des valeurs religieuses, culturelles, dans leur vécu, même s'ils sont dans les bureaux comme là, vous avez vu, l'événement s'est passé dans un espace académique et intellectuel par excellence, où les individus, les participants assistent à un lancement d'ouvrage ou bien à une conférence. Vous voyez que le fou de Dieu, comme ça a été dit tout à l'heure, il est imprévisible, mais son imprévisibilité est tout à fait rationnelle, est tout à fait compréhensible rationnellement, parce que l'individu est imprévisible. Il n'est pas un atome insécable, un atome mécanique, matérialiste. C'est un esprit incarné dans un corps qui a incorporé un certain nombre de valeurs qui sous-tendent ses actions, bonnes ou mauvaises. Donc je voulais surtout l'Iran, vous voyez, mais c'est vrai, les États qui l'ont critiqué, bon, c'est essentiellement les États occidentaux qui ont une vision de Dieu et de sa place dans la société, la laïcité, le libéral, et puis la rationalité politique, communicationnelle. Mais en même temps, l'individu des États islamiques, il n'y a pas, ce sont les théocraties, la charia, hein, la charia kanoun, la charia est normative dans tous les plans de la vie sociale. Comme en Arabie Saoudite et dans tous ces pays, il y a souvent des conflits. Quand les représentants vivent dans les sociétés occidentales, il y a nécessairement un conflit. Parce qu'ils portent sous forme de schémas mentaux cognitifs, comme des schémas de perception du monde, ils portent leur religion en vivant à New York, à Londres et à Washington. Et c'est pourquoi l'irruption des fous de Dieu est tout à fait logique. Est tout à fait logique. Non pas que je la défende, mais sociologiquement, est compréhensible sociologiquement, parce que la société n'est pas un agrégat d'atomes, mais c'est un espace social où des individus qui comportent parfois des visions du monde antinomiques, opposées, diamétralement opposées, coexistent dans un espace. D'où l'incident qui s'est passé. Et même, vous avez dit tout à l'heure que l'animateur de l'événement était surpris, il pensait que c'était une blague. C'est quand il y a eu le sang qu'il a vu que c'était la réalité. Donc ça montre la nécessité d'être ouvert à la pluralité, mais aussi à l'incertitude.
Nous arrivons au terme de cette édition de l'Amérique et vous. Nous parlions de l'agression contre l'écrivain Salman Rushdie et de la tolérance de la pensée ou des idées. Merci à Mohamed Mbroj, professeur d'histoire à Manhattanville College à New York. Merci.
Merci.
Merci à Benoît Eli Awazimbambi Kungua, président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas, basé à Ottawa, au Canada. Merci.
Merci beaucoup, Eric, pour l'invitation et à tous les participants.
Merci au professeur Jean-Claude Géréquet, docteur en histoire contemporaine et en sociologie des religions. Merci beaucoup.
Merci, Eric. Merci de nous avoir invités à discuter de cette question qui est une question centrale, une question importante pour nos sociétés, n'est-ce pas, où il y a tout le monde, où il y a musulmans, croyants, athées, bouddhistes, chrétiens. Je pense que c'est vraiment une bonne initiative.
Merci à Lionel Nanilagahima qui assure la mise en onde. Eric Mandakid a été avec vous. Merci aussi à tous les auditeurs qui ont suivi cette émission. Et je vous souhaite une excellente soirée avec le programme de VOA.